Vous écoutez On lit pour vous.
La province face à la colère d'immigrants. Un texte de Marine Ernoult, paru le 15 juin 2024 dans La Voix acadienne de l'Île-du-Prince-Édouard. Depuis début mai, Charlottetown est en proie à un bras de fer d'un genre nouveau. Environ 600 travailleurs immigrants conteste la nouvelle politique d'immigration du gouvernement provincial. Manifestations, grève de la faim, sit-in devant le Parlement provincial, ils multiplient les actions pour obtenir leur résidence permanente et rester dans la province. « C'est vraiment difficile. Mon permis de travail est sur le point d'expirer et avec le gouvernement qui change ses règles du jour au lendemain, ça met en péril ma résidence permanente. » S'inquiète Monpreet, originaire d'Inde, arrivée à l'île du Prince-Édouard il y a un an et demi. La jeune femme de 23 ans est aux côtés d'une dizaine d'autres immigrants devant l'Assemblée législative de l'île du Prince-Édouard à Charlottetown. Assis sur des couvertures à même le sol, une bâche bleue les protège de la pluie et du vent. Depuis plus d'un mois, ces hommes et ces femmes, venus principalement d'Inde, protestent contre les changements que la province a apportés à sa politique d'immigration. En février dernier, le gouvernement de Dennis King a décidé de réduire de 25 % le nombre de candidats qu'il invite à présenter une demande de résidence permanente auprès du ministère fédéral, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Sans nous, les insulaires n'auraient pas leur café servi aussi vite. Les changements touchent surtout les immigrants qui travaillent dans les secteurs des services et du commerce. Le nombre de nominations provinciales a baissé de 855 à 215 pour les travailleurs de ces domaines. Sans nomination de la province, nous n'avons pas assez de points pour obtenir notre résidence permanente, résume Monpreet. C'est injuste ce qui nous arrive. Et si nous ne sommes pas des enfants d'insulaires, nous sommes au moins des personnes. Et nos droits doivent être respectés. Poursuit Sachindeep Singh, qui habite à Summerside depuis 2 ans. Le jeune homme souligne le rôle crucial que la main-d'œuvre immigrante joue dans l'économie insulaire. Si nous n'étions pas là pour travailler à Tim Hortons, Walmart ou Canadian Tire, il n'y aurait pas le même niveau de service. Le matin, en allant au travail, les insulaires n'auraient pas leur café servi aussi vite. Les manifestants, présents à l'île depuis des années, revendiquent l'application d'une clause de droit acquis, dite « grand-père », qui leur permettrait d'être exemptés des nouvelles règles. « On a créé notre vie ici, on ne veut pas partir ». Pour attirer l'attention du gouvernement provincial, ils ont entamé une grève de la faim. Environ 60 d'entre eux prennent le relais, selon les organisateurs. J'espère qu'ils vont finir par entendre raison. Leur décision a affecté beaucoup de vies, observe Mohit, installé depuis 3 ans à l'île du Prince-Édouard. Des familles souffrent, alors qu'elles étaient venues ici pour construire un avenir meilleur. Le trentenaire, qui a déjà sa résidence permanente, est venu soutenir les membres de sa communauté. En face de lui, Sachindeep Singh rappelle avec force le courage qu'il faut pour immigrer. « C'est très difficile. Lorsque vous n'avez pas toute votre famille, aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on vit au Canada. On s'est intégré. On a créé notre vie ici. » On ne veut pas partir. Fin mai, l'Office de l'immigration de l'île du Prince-Édouard a promis d'examiner une à une les demandes des manifestants. Devant le Parlement provincial, Il reste optimiste et témoigne du soutien répété d'un grand nombre d'insulaires. Ils viennent d'ailleurs de recevoir l'appui des chambres de commerce de Summerside et Charlottetown. C'était « La province face à la colère d'immigrants », un texte de Marine Ernoult, paru le 15 juin 2024 dans La Voix acadienne de l'Île-du-Prince-Édouard.
Un atelier pour normaliser les menstruations chez les jeunes, un texte de Gita Anand, paru le 5 juin 2024 dans L'Eau vive en Saskatchewan. Un atelier en ligne dédié à la santé menstruelle s'est tenu le 4 mai afin d'encourager la communication sur ce sujet encore tabou avec les jeunes. Intitulé « Savoir parler de menstruation aux adolescents, c'est important », l'atelier était proposé par le Réseau Santé en français de la Saskatchewan, RSFS et Dignité menstruelle. Selon la Françaisoise Solène Hamon-Fafard, présentatrice de l'atelier et coordinatrice de l'éducation chez Dignité menstruelle, les menstruations restent un sujet tabou dans de nombreuses sociétés à travers le monde. Pour les parents et tuteurs, aborder ce sujet délicat avec leurs enfants peut être une tâche intimidante. Cependant, l'animatrice pense qu'il est crucial d'instaurer un dialogue ouvert et honnête dès le plus jeune âge afin de permettre aux jeunes de comprendre leur corps et de se sentir à l'aise avec les changements qui s'y produisent. L'atelier a commencé par donner des informations générales sur les menstruations, les changements qu'elles causent et leur durée moyenne. Les participants ont ainsi appris ou réappris que les menstruations commençaient entre 9 et 16 ans, que la femme perdait entre 50 ml et 150 ml de sang pour une durée moyenne de 3 à 8 jours, ou encore qu'une femme était menstruée en moyenne 480 fois au cours de sa vie. Un moment parfois difficile. Parfois, les menstruations sont accompagnées de douleurs, comme des crampes ou des maux de tête, note Solène Hamon-Fafard. La présentatrice a alors donné quelques astuces pour soulager la douleur, comme une bouillotte chaude, des étirements doux ou encore des médicaments sans ordonnance. L'atelier a aussi été ponctué par les participations et témoignages de diverses intervenantes qui n'ont pas manqué de faire part de leur propre expérience. Chez nous, surtout quand j'étais jeune, les menstruations étaient un tabou, a témoigné une intervenante. Je n'en ai jamais parlé avec mes parents. Tout ce que je connaissais sur le sujet, je l'avais appris à l'école, avant d'avoir mes premières menstruations. J'étais quand même bien informée. Une autre participante a ajouté : Moi, je ne connaissais pas grand-chose sur le sujet jusqu'à avoir mes premières règles. Et c'est là que j'ai commencé à en parler à ma mère. Que ce soit pour éviter les obstacles sociaux, tels que la stigmatisation et le tabou en société, la peur de mésinformation, l'inconfort physique et émotionnel, ou pour éviter les obstacles de communication, l'atelier a fourni des conseils pratiques sur la manière d'aborder les menstruations avec les enfants et les jeunes adolescents. Des stratégies de communication efficaces ont ainsi été transmises, permettant aux parents et aux tuteurs d'ouvrir le dialogue, et ce, en vue de créer un air de confiance, normaliser le sujet et favoriser la communication continue. Pour plus de renseignements, Solène Hamon-Fafard encourage le public à se rendre sur le site web de Dignité menstruelle, monthlydignity.com/fr. C'était un atelier pour normaliser les menstruations chez les jeunes, un texte de Gita Anand paru le 5 juin 2024 dans L'Eau vive en Saskatchewan.
Ottawa autorise la destruction de 37 cours d'eau du Québec pour stocker des résidus miniers. Un texte d'Alexandre Shields paru le 10 juillet 2024 dans Le Devoir. Le gouvernement Trudeau vient d'approuver la destruction de 37 cours d'eau, dont des lacs, pour permettre à l'entreprise Minerai de Fer Québec d'y déverser des centaines de millions de tonnes de résidus miniers au cours des prochaines années, a constaté Le Devoir. Des groupes écologistes dénoncent cette décision qui a été prise pour permettre l'expansion de la production de la mine de fer du lac Bloom, située près de Fermont. Vivement critiquée par le Bureau d'audience publique sur l'environnement, mais approuvée par le gouvernement Legault en 2022, le projet de destruction de cours d'eau devait aussi obtenir le feu vert d'Ottawa, qui avait le pouvoir de refuser le remblaiement de ces milieux naturels. Le fédéral a toutefois choisi de l'approuver, sur recommandation du ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault. Dans un courriel en réponse aux questions du Devoir, le cabinet de ce dernier se porte d'ailleurs à la défense de la décision d'Ottawa, tout en répétant d'entrée de jeu qu'il est important de protéger nos écosystèmes. En vertu de cette approbation, le gouvernement fédéral a accepté de redéfinir les cours d'eau, qui sont actuellement les habitats de différentes espèces de poissons, afin de les désigner comme « zone de dépôt de résidus miniers pour le projet d'expansion de la mine du lac Bloom », précise Environnement et Changement climatique Canada, ECCC. On y retrouve essentiellement des lacs et des milieux humides. Les détails de la décision attendue depuis plus de 2 ans ont été publiés dans la Gazette du Canada du 3 juillet 2024. On y rappelle que la loi sur les pêches interdit de telles opérations de destruction de l'habitat du poisson, à moins qu'Ottawa n'approuve le tout en vertu du règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants. Ce règlement a pour but de protéger la qualité de l'eau des plans d'eau naturels. Compensation. Or, pour exploiter son gisement jusqu'en 2040, à raison de 15 millions de tonnes par année, ce qui revient à doubler la production, Minerai de Fer Québec évalue ses besoins d'entreposage de résidus et de stériles à 1,3 milliard de tonnes. De ce nombre, 872 millions de tonnes devront être stockées dans de nouveaux sites situés près de la fosse minière. L'entreprise estime toutefois que l'espace terrestre disponible est insuffisant, selon ce qu'on pouvait lire dans l'étude d'impact de la minière. Cette filiale de la minière australienne Champion Iron rejetait donc l'idée de stocker les résidus dans la fosse pour ne pas mettre en péril l'exploitation d'une ressource potentiellement exploitable dans le futur. C'est dans ce contexte que la minière cherchait depuis 2020 à obtenir l'autorisation de remblayer différents cours d'eau du secteur afin d'y stocker les résidus et les stériles. ECCC et Pêche et Océan Canada, MPO, ont donc réalisé des consultations en s'appuyant sur un plan de mesures de compensation proposé par Minerai de Fer Québec afin de compenser la destruction des cours d'eau. Selon ce que précise ECCC par courriel, le plan compensatoire présente 7 projets répartis sur 9 sites dispersés à plusieurs endroits dans le territoire québécois qui seront normalement achevés d'ici 2035. On y trouve notamment des projets sur des rivières à saumon de la Côte-Nord. Selon le fédéral, ces projets appuieront la conservation et la protection du poisson et de son habitat. Le cabinet du ministre Guilbeault affirme essentiellement la même chose dans son courriel au Devoir. MPO s'attend également à ce que ces projets procurent des avantages écologiques proportionnels aux effets néfastes découlant de la perte d'habitat du poisson causée par l'utilisation de plans d'eau pour le dépôt des résidus miniers. Le coût total des projets compensatoires est estimé à 16 millions de dollars. Plusieurs groupes environnementaux ont critiqué le projet de destruction de cours d'eau pour répondre aux besoins de l'industrie minière. la Coalition Québec Meilleure Mine, Au Secours, la Fondation Rivière et Mining Watch Canada avaient d'ailleurs demandé au fédéral de fermer la porte à l'utilisation de plans d'eau pour le stockage de résidus miniers. C'est un dangereux précédent, a déclaré en entrevue le directeur général de la Fondation Rivière, André Bélanger. Selon lui, cette approbation de destruction de cours d'eau par une minière risque d'inciter d'autres entreprises à proposer le même genre de projet au Québec dans les années à venir. Même son de cloche du côté du co-porte-parole de la Coalition Québec Meilleure Mine, Rodrigue Turgeon. Le signal qu'on lance avec une telle décision, c'est qu'on peut vanter la pureté de nos lacs, mais que nous sommes prêts à les sacrifier pour l'industrie minière. C'est une décision aberrante. Le gouvernement du Québec n'interdit d'ailleurs pas la destruction de lacs, de cours d'eau et de milieux humides pour le stockage de déchets miniers. En 2018, il a autorisé la minière ArcelorMittal à augmenter la superficie de son parc de résidus miniers, lui aussi situé dans la région de Fermont. Le projet entraînera la destruction de 11 lacs, de 15 étangs et de 25 ruisseaux. La minière a donc prévu un programme de « restauration » pour compenser la perte du milieu naturel. Caribou dans la région. Le caribou forestier est par ailleurs susceptible de fréquenter la région où se trouve la mine de fer du lac Bloom. Mais la minière estime que son projet n'aura pas un effet significatif sur l'habitat du caribou puisque le taux actuel de perturbation de l'habitat du caribou forestier relié à des sources anthropiques est très élevé et que ces derniers évitent déjà le secteur du projet. Et même après une éventuelle restauration du site, cette zone n'offrira possiblement pas les caractéristiques biophysiques pour répondre aux besoins d'habitat du caribou forestier, et ce, avant plusieurs décennies. C'était « Ottawa autorise la destruction de 37 cours d'eau du Québec pour stocker des résidus miniers », un texte d'Alexandre Shield, paru le 10 juillet 2024 dans Le Devoir.
Jagmeet Singh, un politique du consensus. Une chronique d'Étienne Haché, parue le 16 juin 2024 dans Le Franco, en Alberta. Nombreux sont-ils à considérer que la prochaine élection fédérale canadienne est déjà jouée, et ce, depuis que les libéraux actuellement au pouvoir semblent marquer le pas dans les sondages. N'en déplaise toutefois aux commentateurs politiques et aux experts en communication, de nombreux facteurs peuvent surgir d'ici octobre 2025, qui sont susceptibles d'influer sur les enjeux de l'élection et ainsi rebattre les cartes, voire inverser la tendance. Dans « Qu'est-ce que la politique ?», Hannah Arendt explique que le sens du politique, c'est d'être imprévisible et irréversible. La politique n'a rien d'un produit de consommation, sujet aux humeurs et aux caprices. Elle ne se conçoit pas davantage comme un objet fait sur mesure, comme l'on fabrique une table. Comme mentionné dans ma dernière chronique consacrée au chef conservateur Pierre Poilievre, la politique n'est pas non plus qu'une affaire d'apparence et de réseau. L'action politique relève à la fois du génie, comme dans les grandes productions artistiques, et nécessite raison gardée lorsque confrontée à la réalité. Un parcours atypique. L'actuel chef du nouveau Parti démocratique du Canada, NPD, Jagmeet Singh, incarne une droiture et une sagesse politique dignes de ce nom. L'une de ses devises est la suivante. « Ensemble, nous pouvons donner vie à ce rêve d'une société plus prospère, plus durable et plus juste pour tous. » Son principal défaut, cependant, c'est de ne pas être suffisamment connu des électeurs canadiens. Pourtant, l'histoire et la vie de Singh méritent qu'on s'intéresse à son message politique. Né à Scarborough, en Ontario, d'une famille originaire de la région du Pendjab, au nord-ouest de l'Inde, Singh a passé 5 années de son enfance à Terre-Neuve, où le père a officié comme médecin, psychiatre. Quelques années plus tard, en 1997, après avoir complété son cursus scolaire dans une école privée de Détroit, la famille étant installée à Windsor, il obtient un premier diplôme en biologie de l'Université Western en Ontario, suivi d'un baccalauréat en droit de l'Université de New York en 2005. C'est sa formation en droit pénal qui va l'inciter à faire le saut en politique, dans une ancienne circonscription à la fois fédérale et provinciale de l'Ontario. Activiste de nature qui proposait jadis aux plus défavorisés des séminaires juridiques gratuits à travers l'Ontario, Singh a été défait aux élections fédérales de mai 2011, mais élu quelques mois plus tard, en octobre, aux élections provinciales, devenant ainsi le premier député à porter le turban, symbole de la religion sikh au sein de la législature ontarienne. Après 6 années comme député provincial, où il a fait ses preuves en tant que critique et chef adjoint de l'opposition démocrate, Singh choisit de briguer la course à la direction du nouveau Parti démocratique du Canada en 2017 et en devient le chef, succédant à Thomas Mulcair. Il sera élu pour la première fois à la Chambre des communes comme député de la circonscription de Burnaby-Sud, qu'il continue toujours de représenter lors d'une élection partielle le 25 février 2019. L'héritage culturel. La droiture et la sagesse du chef néo-démocrate sont des valeurs enracinées dans son héritage culturel. La religion sikh à laquelle appartient Singh est une religion dharmique monothéiste dont les membres partagent une communauté de destin et de langue, le Punjabi. Proche de l'hindouisme, mais dont il se démarquera progressivement à partir du 15e siècle, par ses élans moins élitistes et moins hiérarchisés, le sikhisme est une religion progressiste qui possède des affinités avec notre univers mental judéo-chrétien. Il fait du caractère sacré de la vie individuelle et de l'égalité homme-femme des valeurs humanistes universelles. Un événement marquant du mouvement sikh est la fondation de l'Empire moghol, empire musulman qui a dominé l'Inde jusqu'à la conquête britannique en 1857. C'est en grande partie contre les musulmans que s'est constituée la communauté sikh. Au nom du principe de non-violence, les hindous, les jaïns et les bouddhistes, eux qui commencèrent à fuir les persécutions en Inde aussitôt qu'au 9e et 10e siècle, tous se laissèrent massacrer par les musulmans. Mais un certain Guru Arjun, 1563-1606, estimait toutefois que cette soumission avait assez duré. Les Sikhs ont alors organisé la résistance. Dans l'histoire moderne de l'Inde, ils ont été une force militaire formidable, la seule à s'opposer, à contenir et à vaincre l'invasion musulmane. Cette dimension historique permet de mieux comprendre, me semble-t-il, la personnalité de Singh, sa fierté de partager son héritage culturel, son attachement profond à la dignité de la personne humaine. Pas l'ombre d'un doute que cela fait de lui une personnalité politique hors du commun. Certes, davantage que ses rivaux Justin Trudeau et Pierre Poilievre, Jagmeet Singh doit faire face à la réalité canadienne. Son militantisme politique en faveur de la démocratie et des droits de la personne sont des valeurs fortes de la société canadienne, ce qui le rapproche des communautés culturelles et des Premières Nations. En revanche, sa position sur la question québécoise demeure ambiguë. Disons plutôt qu'elle relève presque du statu quo. Quelques défis et enjeux de politique canadienne. Sympathique à la cause québécoise, Singh est profondément attaché à la langue française, l'idée d'un Québec fort dans un Canada uni, déclaration de Sherbrooke de 2005, reste pourtant une ancienne ordinaire qui n'a fait que saper la confiance des Québécois dans le gouvernement fédéral au cours des 50 dernières années. Par ailleurs, bien qu'il se soit ravisé au sujet de la loi sur la laïcité de l'État, estimant qu'il appartient au gouvernement du Québec de décider en cette matière, Il n'a jamais exclu la possibilité d'une contestation de la loi dans le cas d'une violation de la Charte canadienne des droits et libertés. Sur le plan socio-économique, la position de Singh s'inscrit dans le droit fil de l'évangile social du NPD qui prône une économie réglementée, donc un État-providence garant de la sécurité sociale, de l'assurance-emploi, de l'assurance-maladie, de la sécurité-vieillesse ou encore d'un système de garderie nationale. On a pu voir lors des dernières élections à quel point ces valeurs sont profondément enracinées dans la tradition du parti. C'est aussi sous la direction de Singh que le NPD est parvenu à un accord avec le Parti libéral en mars 2022 en matière de soins dentaires, d'assurance médicaments et d'accès au logement. Outre le fait que cet arrangement assure une stabilité au gouvernement libéral minoritaire et permet d'éviter des élections anticipées, ce pourquoi il a été si décrié par les autres partis d'opposition, il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'une grande victoire pour le NPD et son chef. Le soutien de Singh aux libéraux de Trudeau lors des votes de confiance à la Chambre des communes lui permet en retour de consolider sa réputation de parti progressiste tout en gardant l'œil ouvert sur des décisions budgétaires qui lui tiennent à cœur. Gageons que cet accord ne sera pas facile à abolir, même avec un nouveau gouvernement conservateur, majoritaire, qui revendique en permanence son soutien à la classe moyenne. Droits et libertés, social-démocratie, bien-être, on retrouve le même jeu d'équilibriste conforme aux idéaux du NPD dans la position de Singh en matière d'environnement. Sans être opposé à l'exploitation des ressources pétrolières, le chef du NPD insiste toutefois sur une réglementation plus stricte et une transition écologique progressive. Il s'agit de soutenir les travailleurs touchés par la transition énergétique à travers des programmes de reconversion et de soutien à l'emploi vers une économie verte, juste et équitable. Toute la question est de savoir si ces postures idéologiques suffisent à faire du NPD, toujours nostalgique du règne de Jack Layton, un choix crédible auprès des électeurs canadiens en 2025. À moins que le génie politique de Singh ne soit ailleurs. Et si l'alliance actuelle avec les libéraux de Trudeau présageait le retour d'une grande social-démocratie capable de contrer la nouvelle droite conservatrice? C'était Jagmeet Singh, un politique du consensus. Une chronique d'Étienne Haché parue le 16 juin 2024 dans Le Franco en Alberta.